Étude sur la première épître aux Corinthiens par Hamilton Smith. Préface. La première épître aux Corinthiens considère l'assemblée de Dieu dans ses privilèges et ses responsabilités sur la terre et présente l'ordre voulu par Dieu pour la réalisation locale de ses responsabilités. Les désordres graves qui existaient dans cette assemblée furent la raison directe de la rédaction de cette épître. C'est donc une épître corrective. Mais il est évident que l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, ne s'est pas borné à corriger les abus dans une assemblée locale de l'époque du commencement, mais il a également donné des instructions divines et inspirées valables pour tous les temps au sujet du maintien de la sainte discipline dans la maison de Dieu et au sujet du maintien de l'ordre divin parmi le peuple de Dieu en tant que formant le corps de Christ, spécialement l'ordre divin en rapport avec les réunions d'assemblée. Au cours de l'épître, nous apprenons que dans cette assemblée, il y avait du relâchement moral, du désordre et des erreurs doctrinales. Un mal conduit à l'autre. L'expérience a souvent prouvé que la mondanité et le relâchement moral sont suivis de désordre dans l'assemblée et que ce désordre ouvre à son tour la porte à l'erreur doctrinale. L'épître est divisée en grandes sections qui traitent de ces maux dans l'ordre suivant. Premièrement, dans les chapitres 1 à 10, l'apôtre s'occupe du relâchement moral en introduisant la croix de Christ et l'Esprit Saint dans le but d'exclure la sagesse de ce monde et la licence de la chair. Il nous donne aussi des instructions pour le maintien de la discipline parmi le peuple de Dieu. Deuxièmement, dans les chapitres 11 à 14, l'apôtre traite du désordre de l'assemblée en présentant la libre action de l'Esprit Saint dans l'assemblée vue comme le corps de Christ. Troisièmement, dans le chapitre 15, il traite de la fausse doctrine qui niait la résurrection des morts, sapant l'Évangile et portant atteinte à la personne de Christ. Chapitre 1er. Versets 1 à 3. Adresse de l'Épître. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. C'est en tant qu'apôtre que Paul écrit à l'assemblée de Corinthe, et il prend soin de déclarer qu'il a reçu son autorité d'apôtre par l'appel de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et non pas par une nomination humaine, ni selon la volonté de l'homme. Quoiqu'écrivant comme apôtre, il est tout à fait libre de s'associer à un frère. Si ce frère Sosthène est celui qui avait été précédemment chef de synagogue à Corinthe, il était bien connu des Corinthiens. Voir Actes 18, verset 17. L'apôtre s'adresse à l'assemblée de Dieu à Corinthe comme à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés. Verset 2. Il voit ainsi les saints comme mis à part pour Christ, tandis qu'ils traversent ce monde, et en même temps, il les voit comme appelés hors de ce présent siècle mauvais pour avoir une part avec Christ en haut, car notre appel est céleste. En haut. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, et Philippiens 3, verset 14, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste. Tout en s'adressant à l'assemblée à Corinthe, l'apôtre leur associe tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur est le nôtre. Verset 2. Il y a un seul Seigneur, dont chaque assemblée locale peut dire, en se référant à toutes les autres, « Il est à la fois leur Seigneur et le nôtre. » Cela était de toute importance dans une épître qui traite de la conduite pratique du chrétien et du maintien de la discipline et de l'ordre dans l'assemblée. Cela montre clairement que les instructions de l'épître s'appliquent à l'ensemble de la profession chrétienne de tous les temps. À maintes reprises dans l'Épître, nous trouvons des passages qui réfutent la tentative de limiter l'instruction à une assemblée locale ou à la période apostolique. chapitre 4, verset 17, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Chapitre 7, verset 17, c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Chapitre 11, verset 16, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Chapitre 14, verset 36, la parole de Dieu est-elle parvenue à vous seul? Chapitre 16, verset 1, comme j'en ai ordonné aux assemblées de la Galatie. L'apôtre parle clairement des désordres de cette assemblée, mais derrière ses propos de condamnation manifeste, on voit son ardent désir qu'il puisse jouir des bénédictions de grâce et de paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Versets 4 à 9. Sujet d'action de grâce. Citation de l'Écriture. Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toute chose vous avez été enrichi en lui en toute parole et toute connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce, pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin, pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Fin de citation. Bien qu'il eût beaucoup à corriger dans cette assemblée, en raison de leur bas état, l'apôtre était néanmoins reconnaissant de la grâce et de la fidélité de Dieu à leur égard. La grâce de Dieu leur avait été donnée, comme pour nous tous, grâce à Jésus-Christ, verset 4. Cette grâce les avait enrichis de toute bénédiction spirituelle en Christ et leur avait donné toute parole de doctrine et toute connaissance de doctrine, verset 5. Il y avait eu un témoignage rendu à Christ au milieu d'eux, confirmé par la connaissance de la vérité qu'ils possédaient, verset 6, et par le fait qu'ils ne manquaient d'aucun don en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 7. En outre, la grâce qui les avait si richement bénis les affermirait jusqu'à la fin, de sorte que, même si l'apôtre avait beaucoup à corriger dans leur état actuel, ils seraient irréprochables dans la journée du Seigneur. Verset 8. En outre, malgré toute l'infidélité de ses saints, l'apôtre peut rendre grâce à la fidélité de Dieu, par qui les croyants sont appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 9. Notons qu'il ne s'agit pas ici de la communion avec son Fils, mais de la communion de son Fils. Une communion dont Christ, comme Seigneur, est le lien, et qui embrasse tous ceux qui invoquent son nom. C'est la vraie communion chrétienne, et la seule que l'Écriture reconnaît. Les chrétiens peuvent former d'autres cercles de communion dont le lien consiste à maintenir quelques vérités importantes, ou à opérer quelque œuvre spéciale, mais de tels cercles de communion ont un caractère sectaire et sont forcément bien loin d'arriver à la hauteur de la communion à laquelle nous sommes appelés. Celle-ci a le Seigneur pour lien, la scène du Seigneur pour expression la plus profonde, et l'Esprit-Saint pour puissance qui dirige. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Une génération peut passer et une autre se lever, mais le Seigneur seul demeure. Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur. Et malgré toute la ruine et la confusion dans la profession chrétienne, sa pensée, telle que développée dans l'Épître, demeure dans toute sa force quant à la conduite de ceux qui sont appelés à la communion, dont il est le lien, et quant à la discipline et de l'ordre des assemblées de Dieu. Il est à remarquer que, tout en remerciant Dieu pour sa grâce, l'apôtre n'exprime absolument aucune approbation de leur condition spirituelle. Il se réjouit de reconnaître la fidélité de Dieu, mais il ne peut pas s'adresser à eux comme à des saints et fidèles, selon ce qu'il écrit aux saints à Éphèse et à Colosse. Éphésiens 1, verset 1, Colossiens 1, verset 2. Hélas, bien qu'ils avaient toute connaissance, verset 5, et qu'ils ne manquaient d'aucun don, verset 7, l'apôtre doit reconnaître un peu plus loin qu'ils étaient encore charnels, chapitre 3, verset 3, et qu'ils ne pouvaient pas leur parler comme à des hommes spirituels, chapitre 3, verset 1. La chair peut se vanter de la connaissance et se servir des dons pour s'élever, mais nous faisons bien de nous rappeler que la simple connaissance et la possession de tous les dons n'écartent pas le désordre ni n'assurent la spiritualité si la chair n'est pas jugée. Ayant ainsi reconnu ce qui était de Dieu dans l'assemblée, l'apôtre commence à s'occuper des désordres répandus au milieu d'eux qui entravaient leur croissance spirituelle et leur témoignage pour Christ. Versets 10 et 11. Citation de l'Écriture. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Car, mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Fin de citation. Le premier grand mal qu'il traite est l'état de division qui régnait parmi eux. « Il y a, écrit l'apôtre, des dissensions parmi vous. » Verset 11. Et de nouveau en 1 Corinthiens 11, verset 18, « J'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. » Il aborde ce sujet avec un appel très solennel en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient de rappeler à l'assemblée à Corinthe et à nous-mêmes que nous avons été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 9. Cet appel, qui est accompagné de nombreux privilèges, implique la responsabilité d'être fidèle à la communion dans notre marche et dans nos voies. Pour jouir de nos privilèges et assumer nos responsabilités, nous sommes exhortés à être parfaitement unis dans un même sentiment et un même avis, en sorte qu'il n'y ait pas de division au sein du peuple de Dieu, verset 10, ni de brèche dans la communion. Verset 12. Citation de l'Écriture. Or voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Le Christ est-il divisé ?» Fin de citation. L'apôtre expose alors la racine d'où proviennent les divisions. Chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, etc. » D'un côté, ils encensaient des serviteurs doués du Seigneur en leur attribuant une fausse position de centre de rassemblement, ce qui est le fâcheux principe du cléricalisme. D'un autre côté, ils se constituaient eux-mêmes en partie autour de ces serviteurs et s'engageaient ainsi dans le mal du sectarisme. Mais qu'en était-il de ceux qui désavouaient tout conducteur humain et disaient « Moi je suis de Christ » Ceux-ci étaient en réalité pires que les autres, car il faisait de Christ un chef de parti et ignorait les dons donnés par Christ. C'était se réclamer d'une spiritualité supérieure, se croyant capable de se passer du service des autres et prétendre s'approprier Christ pour eux seuls. Le mal ici est l'inverse de celui d'Actes 20, verset 30. Là, l'apôtre avertit les anciens d'Éphèse que du trouble viendrait des conducteurs. Ici, il déclare qu'il provenait des disciples. Là, il parle de ce qui se passerait après sa mort. Ici, de ce qui se passait durant sa vie. Mais un mal amène l'autre. Le mal commence en formant des parties autour de conducteurs et finit par des conducteurs enseignant des choses perverses. Ce principe solennel manifesté à Corinthe a été à l'œuvre tout au long de l'histoire de l'Église avec des résultats tout aussi désastreux. Les gens se sont rangés autour de leur docteur préféré et les conducteurs, acceptant d'être placés dans cette fausse position, ont fini par enseigner des choses perverses et ont amené de la division parmi le peuple de Dieu en attirant les disciples après eux. Versets 13 à 16. Citation de l'Écriture. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé pour le nom de Paul? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. J'ai bien aussi baptisé la maison de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. » Fin de citation. L'apôtre condamne leur sectarisme en demandant « Le Christ est-il divisé ?» Verset 13. Nous sommes appelés à la communion dont Christ est le lien. Nous pouvons, hélas, former d'autres communions avec quelque autre lien, mais nous ne pouvons pas diviser Christ. Puis ils condamnent leur cléricalisme en demandant « Paul a-t-il été crucifié pour vous ?» Paul refusait d'être exalté en étant mis dans une fausse position de centre de rassemblement pour le peuple de Dieu. Le seul vrai centre de rassemblement pour le peuple de Dieu est celui qui a démontré ses droits sur eux en étant crucifié pour eux. Même si Paul aimait beaucoup le peuple de Dieu, il n'avait pas été crucifié pour eux. Il ne voulait pas usurper une place dans les affections du peuple de Dieu qui n'appartient qu'au crucifié. Son seul but, comme celui de tout vrai serviteur, était de les fiancer à un seul mari afin de pouvoir les présenter comme une vierge chaste à Christ. De Corinthiens 11, verset 2. Paul ne s'était pas non plus constitué en centre de rassemblement en baptisant au nom de Paul. Verset 15. En fait, il avait seulement baptisé Crispus et Gaius et aussi la maison de Stéphanas. Quant au reste des saints de Corinthe, il s'était abstenu de les baptiser pour que personne ne dise qu'il baptisait pour son propre nom et qu'il cherchait ainsi à former un parti autour de lui. En encensant leur docteur préféré et en cherchant à obtenir du prestige en les suivant, ils se glorifiaient dans les hommes plutôt que dans le Seigneur, dans les dons plutôt que dans le donateur. Pour contrecarrer ce mal, l'apôtre insiste sur deux grandes vérités. Premièrement, la croix de Christ, le grand sujet du reste du chapitre. Deuxièmement, la présence et la puissance du Saint-Esprit, ce qui est le grand sujet du chapitre 2. Il aura plus loin beaucoup à corriger dans les détails de leur comportement, mais avant de le faire, il cherche à les établir dans les grandes vérités qui excluent totalement la chair. La tolérer est la racine de tous les désordres dans l'assemblée de Dieu. La croix traite la chair en la jugeant devant Dieu. La présence du Saint-Esprit ne tolère pas la chair dans l'assemblée de Dieu sur la terre. C'est une considération solennelle pour nous tous que, dès qu'on permet à la chair de se manifester dans l'assemblée de Dieu, en pratique, on nie l'œuvre de la croix et on ignore la présence de l'Esprit-Saint. Versets 17 à 31. La croix de Christ. L'apôtre commence à parler de la croix de Christ au verset 17. En relation avec, il y a la prédication de la croix, au verset 18 à 25, l'appel de Dieu, au verset 26 à 29, et enfin, la position dans laquelle l'appel de Dieu nous amène, au verset 30 et 31. Chacune de ces vérités exclut totalement la chair et mène à la conclusion que « celui qui se glorifie dans le Seigneur ». Verset 31. Verset 17. La croix de Christ. Citation de l'Écriture. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non point avec sagesse de parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Fin de citation. Tout d'abord, l'apôtre met en avant devant ses croyants la croix de Christ. Il avait été envoyé, non pas pour baptiser, mais pour prêcher la bonne nouvelle, l'Évangile. La prédication ne devait pas être faite avec sagesse de parole, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La présentation de l'Évangile ne se borne pas à des paroles, il faut la croix. C'est un principe extrêmement important à saisir que Dieu se fait connaître à nous par ses actions et non pas simplement par des descriptions ou des déclarations de sa part. La philosophie et la théologie cherchent à décrire Dieu. Mais faire une description exige de la sagesse de parole et la sagesse de parole requiert l'instruction humaine pour formuler et comprendre ses paroles. Dieu est trop grand pour être décrit par des paroles et nous sommes trop petits pour assimiler de simples descriptions. Dieu s'y est donc pris autrement, et à dire vrai, de la seule manière possible pour se faire connaître lui et son évangile. Il s'est fait connaître lui-même personnellement et en action. Dieu s'est manifesté en chair dans la personne de Christ, et s'est fait connaître dans toutes ses activités parmi les hommes. Et ses activités faites de grâce, d'amour et de sainteté ont culminé dans la croix de Christ. La croix est la plus grande manifestation possible de l'amour de Dieu pour le pécheur, de la haine de Dieu contre le péché et de la mise de côté de l'homme dans la chair. Ceci étant, l'apôtre refuse d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, par de simples descriptions qui supposent de la sagesse de parole, mais il place devant eux la croix de Christ qui met l'homme de côté, cet homme que les Corinthiens exaltaient. Versets 18 à 25. La prédication de la croix. Citation de l'Écriture. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient, puisque les Juifs demandent des miracles et que les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie, mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Fin de citation. Les philosophes préfèrent les dissertations érudites. C'est pourquoi la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Verset 18. Les sages de ce monde ne voient pas la gloire de la personne qui a été clouée à la croix, et ne voient donc pas l'amour de Dieu qu'il a donné pour souffrir, ni la sainteté de Dieu qui exigeait un tel sacrifice, ni la ruine totale de l'homme. Toutes ces choses manifestées dans la croix. Tout ce qu'il voit, c'est un homme cloué à une croix entre deux brigands, de sorte que la prédication du salut par le moyen de la croix leur paraît une pure folie. Ceux qui pensent ainsi sont ceux qui périssent. Pour ceux qui sont sauvés, la croix est la puissance de Dieu pour sauver. Verset 18. Car par elle, Dieu peut justement sauver le pécheur le plus vil. La sagesse du monde est ainsi dévoilée et réduite à néant. Verset 19. Le monde a eu amplement le temps de développer sa sagesse. Le résultat a été que toute la sagesse des philosophes s'est montrée être une folie du fait qu'elle laisse l'homme dans l'ignorance complète de Dieu. Verset 20. La fin de toute la sagesse de l'homme est que le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu. Verset 21. Ce n'est pas par ignorance ou par stupidité que l'homme n'a pas connu Dieu, mais par la sagesse. Le résultat net de toute la sagesse de tous les âges, y compris celle des efforts combinés des intelligences les plus vives du monde, a été de laisser l'homme dans l'ignorance absolue de Dieu et dans l'ignorance totale de lui-même. Lorsque l'échec complet de la sagesse de l'homme a été démontré, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Verset 21. Or, la manière de Dieu de se révéler et de bénir l'homme est autant une offense pour les Juifs que pour les non-Juifs. Les Juifs recherchaient un signe, quelque intervention miraculeuse de Dieu faisant appel au sens. Les nations recherchaient le raisonnement philosophique faisant appel à la pensée. Verset 22. Dieu se sert de Christ crucifié pour faire appel à la conscience et au cœur. Mais ceci était une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les non-juifs. Les Juifs attendaient un Messie régnant en puissance depuis un trône, un Messie qui ferait revivre le royaume, abattrait leurs ennemis et établirait Israël à la tête des nations. Christ régnant sur un trône, ils pouvaient le comprendre. Christ crucifié sur une croix était une offense pour eux. N'ayant aucun sentiment de leurs besoins comme pécheurs, ils ne pouvaient voir aucun sens à la croix. À cause de leur incrédulité, la croix devenait une pierre d'achoppement pour eux. Verset 23. Quant aux non-juifs, ils attendaient quelque chose faisant appel à la raison, quelque chose de nouveau, quelque nouveau schéma philosophique. Leur dire qu'il y avait un salut au moyen d'un crucifié, qu'il y avait la vie au moyen d'un mourant, la puissance au moyen d'un crucifié en faiblesse, ce n'était à leurs yeux que pure folie. Verset 23. Néanmoins, à ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Verset 24. En lui, il découvre la puissance de Dieu qui sauve et la sagesse de Dieu accomplissant tous ses desseins. Selon les idées des hommes, la prédication est la folie de Dieu et la croix la faiblesse de Dieu. Soit. Mais cela ne fait que démontrer que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 25. Versets 26 à 29. L'appel de Dieu. Citation de l'Écriture. Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Fin de citation. En présentant la croix et la prédication de la croix, l'apôtre a mis de côté la chair religieuse des Juifs et la chair intellectuelle des nations. Ensuite, il met de côté l'orgueil de la chair en présentant l'appel de Dieu. Car considérez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles, faibles, viles, méprisées, et les choses qui ne sont pas, pour confondre les sages et réduire à néant celles qui sont. C'est ainsi qu'un mendiant aveugle confondit les pharisiens sages, voir l'aveugle-né de Jean 9, versets 30 à 34, et de simples pécheurs confondirent les sages chefs d'Israël, au point qu'ils en furent obligés de se demander quoi faire. Acte 4, versets 14 à 16. Dieu se sert ainsi des choses qui ne sont pas pour annuler celles qui sont. Verset 28. Au jour des apôtres, ce par quoi les hommes cherchaient à s'exalter était le judaïsme et la philosophie. Dieu s'est servi d'hommes simples pour réduire ces choses à néant, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. La chair a besoin de se glorifier en quelque chose, la naissance ou les richesses ou les questions intellectuelles. Mais en présence de Dieu, ni croyant ni incrédule ne peut se glorifier dans ces choses. Verset 29. Hélas, en présence des hommes, on cherche à s'exalter par la naissance ou les richesses ou la sagesse ou les réussites. Mais en présence de Christ, on a honte de cela même dont on se glorifie devant autrui. En sa présence, on n'ose pas mentionner ces choses, si ce n'est pour se condamner de s'en être glorifié. Se glorifier en ces choses montre seulement à quel point on est peu dans sa présence. Versets 30 et 31. La position du croyant en Christ. Citation de l'Écriture. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Fin de citation. Finalement, l'apôtre met de côté la chair en présentant l'origine et la position du croyant. Le croyant est de Dieu. Verset 30. Combien il est plus grand d'être de Dieu que de faire partie des nobles, des puissants, des sages ou des riches. Bien mieux, nous sommes de Dieu dans le Christ Jésus. Non seulement notre origine est en Dieu, mais nous sommes placés dans une position entièrement nouvelle devant Dieu. Nous sommes dans le Christ Jésus. Nous ne nous tenons pas devant Dieu dans la condition et la position d'Adam, loin de Dieu et sous le jugement, mais nous sommes en Christ, dans tout ce qu'il a d'approprié pour Dieu et pour le ciel. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons n'avoir que peu de sagesse propre. Néanmoins, Christ nous a été fait sagesse. Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers la philosophie pour avoir de la sagesse, ou vers les sages, ou vers une sagesse propre imaginaire, car nous avons Christ. Ayant Christ, nous voyons tout de suite ce que toute la sagesse du monde ne peut jamais nous enseigner. Christ, sur la croix, nous a pleinement montré notre ruine et nous a fait connaître Dieu dans son amour. Christ, dans la gloire, présente tout ce que Dieu se propose et s'est proposé. En Christ, nous voyons la sagesse de Dieu qui répond à notre ruine et accomplit son propos. En outre, Christ nous a été fait justice. Nous n'avons pas de justice pour Dieu. La justice de Dieu est vue en ce qu'il nous a justifiés par la mort de Christ et en accord avec ce que lui est. Si nous voulons savoir ce qu'est cette justice et combien elle nous rend parfaitement propres pour la gloire, alors nous n'avons besoin de regarder ni à l'homme, ni à nous-mêmes, mais à Christ. Elle est manifestée en Christ dans la gloire. Christ nous a aussi été fait sainteté. Christ est la mesure, le modèle et la puissance pour la sainteté. Finalement, Christ nous a été fait rédemption, la délivrance complète des effets du péché dans nos corps. C'est ce que nous attendons. Nous voyons cette rédemption déjà manifestée en Christ. Nous l'avons maintenant en Christ notre chef, la tête. Nous attendons qu'elle soit manifestée en nous. Ayant donc tout en Christ et rien dans l'homme comme tel, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ainsi, la croix, verset 17, la prédication de la croix, verset 18 à 25, l'appel de Dieu, verset 26 à 29, et notre position en Christ devant Dieu, verset 30 et 31, tout cela exclut entièrement la chair.